Merci bien. C'est intéressant. Juste un petit point, parce que vous parlez de limites de votre étude, mais en pratique, est-ce que vous avez regardé la concordance entre les acteurs? Parce que s'il y a une concordance entre les acteurs, le fait que vous ayez un taux de réponse qui soit faible, à ce moment-là, veut dire que votre analyse est stable, et donc en pratique, le fait que vous ayez un faible taux de réponse n'aurait aucune conséquence. Exactement, voilà. Ça va regarder s'il y a une concordance entre les différents acteurs sur le positionnement des actions les uns par rapport aux autres. Si vous trouvez que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que si vous faites un test de concordance et qu'il y a une bonne concordance entre les différents acteurs, c'est gagné. À ce moment-là, le fait que vous ayez un échantillon qui soit faible, eh ben, veut dire que de toute façon, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, il y a une concordance entre les acteurs. Voilà.
C'est vraiment intéressant de le regarder et on avait commencé à essayer de vouloir le regarder, mais on s'est heurté à des petits problèmes techniques d'analyse de nos données qu'on doit dépasser. Mais c'était effectivement une piste de réflexion qui paraissait importante.
Moi, je fais un peu la même réflexion que ce matin avec Marie-Hélène Roque-Dunay, hein, qui dirige l'évaluation santé publique à la HAS. Le problème d'appropriation, c'est pas un problème, c'est que comme vous le disiez, pour les recommandations, c'est pareil. C'est un autre outil qu'il faut rechercher. Qu'est-ce qui fait modifier les pratiques des médecins? Je pense à la prescription du médicament, par exemple. Ce sont les firmes pharmaceutiques. Et comment elles s'y prennent? Elles s'y prennent par des visites itératives avec des face-à-face, le plus souvent, avec les professionnels de santé, et avec un argumentaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à modifier les pratiques. Alors, il faut des petits soldats. Tout simplement. Alors, aux États-Unis, dans le Choosing Wisely, il y a un petit peu d'academic detailing, hein, c'est la visite académique, qui est un des modes proposés aussi par la HAS, mais ça devait être généralisé, ça ne l'a pas été. Hein. Et il y a aussi Consumer Report, hein, qui est la grosse association de consommateurs aux États-Unis, qui œuvre et fait notamment des outils de communication dirigés vers les patients. Donc, s'il n'y a pas d'outils de communication pour convaincre et faire en sorte que les professionnels de santé acceptent le message, les messages forts, qui sont des messages qui sont des do not do recommendations. Et c'est bien, je pense qu'il faut des do not do. Eh bien, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'il ne se passera pas plus de choses que les recommandations de la HAS qui restent sur Internet. Si vous ne les ouvrez pas, si vous ne les lisez pas, il ne va rien se passer. Donc il faut des leviers. Pour moi, les deux leviers principaux pour impacter sur les pratiques, c'est la visite itérative en face à face avec une argumentation solide. Ça, c'est un point. Et une deuxième chose, c'est l'interaction avec les logiciels métiers. Bon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais commençons par faire des choses simples. Mais il faut travailler là-dessus, hein, parce que nos systèmes d'information dans les hôpitaux ne sont pas prêts à apporter une aide, des supports d'aide à la décision. C'est dans ces deux axes-là qu'il faut s'interroger pour essayer de que les recommandations se soient appropriées par les professionnels.
J'y ajouterai immédiatement l'enseignement à la fac.
Thomas en a parlé de la formation.
Oui, bonjour, donc, je suis ancien médecin hospitalier, actuellement médecin généraliste remplaçant par plaisir. Alors, ça va être l'objet de l'atelier tout de suite, à 15h15. Quels sont les obstacles à la déprescription, à le voir? C'est pas parce que les médecins ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Alors, bon, je ne vais pas déplorer le sujet, mais alors même si on faisait tout ce que propose François Pestige, en tout cas, pour les médecins généralistes libéraux, à mon avis, ce n'est pas le problème. Là, c'est des médecins particuliers qui sont salariés, en milieu hospitalier, ou travaillent en équipe. Voilà. Pour ce qui est de la médecine générale de ville, a utilisé les IPP comme ça pendant des mois et des années, papa a demandé des examens pour rien. C'est des choses que on est content de voir que ça a été retrouvé, mais ça fait longtemps que c'est dit partout.
Tout à fait, bon, ça pose la question effectivement de la résistance au changement, qui me fait conclure, mais je ne peux pas démontrer que comme il y a une telle résistance au changement, c'est sans doute si on arrivait à mieux formater les cervelles des futurs médecins, ça aiderait. Et après, sur l'aspect libéral et pas libéral, finalement, ça, je ne sais pas répondre à ça, étant effectivement pas du monde libéral, mais en même temps, tout ce qu'on a vu comme liste vient des États-Unis où c'est plus libéral. Donc, finalement, la majorité, y compris les centres hospitaliers, sont des libéraux.
Aux États-Unis, la majorité des hôpitaux sont des institutions démocratiques.
Oui, mais les médecins sont payés à l'acte. Sauf à la Mayo Clinic, qui est l'hôpital des communistes, puisqu'ils sont salariés. mais sinon, la majorité des médecins restent libéraux au pays.
Moi, je voudrais juste une petite question. Vous avez parlé du taux d'appropriation par les médecins qui était pas bon. Est-ce qu'il est différent parmi les participants à l'étude?
L'étude en question n'a pas encore été diffusée, donc du coup, et puis je ne sais pas, on n'a pas non plus, on n'est pas prêt, c'est vrai qu'on n'a pas honnêtement les marqueurs pour savoir comment ça va être, quand on peut mesurer l'appropriation. Donc là, je vous parlais d'autres travaux qui ont été faits, mais qui rejoignent exactement ce qui est écrit pour tous les guidelines finalement. Donc, la top 5 des guidelines, c'est totalement, c'est la même problématique d'appropriation, je pense.
Parce que quand on participe à l'étude, on a plus de chances d'avoir de la confiance,
ouais.
Et du coup, ça favorise l'appropriation.
Ben, c'était un peu le titre de là, c'est très
intéressant pour ceux qui les connaissent
et qui les ont fait finalement, mais finalement les autres, ouais,
c'est
mieux.
Mais c'est quand même incitatif pour les sociétés savantes de,
oui.
De participer. Consacrer à cet exercice-là, pas forcément prendre ce qui est sorti de leur travail, mais se dire pourquoi on ne ferait pas de nous.
Tu veux encore intervenir? C'est bien encore du travail, hein.
Merci.
Pour faire passer dans les faits.
C'est pas connu.
Voilà. Et ça, c'est vraiment un travail pédagogique colossal à faire chez les gens installés et surtout chez ceux qui sont en forme. Ceci dit, il ne faut pas être totalement pessimiste. Je me souviens quand j'étais jeune interne en dépathologie, on ne jurait que par la pente de la BSP. Et si on ne faisait pas une pointe de la BSP à un malade, on était moins que rien. Eh bien, cette pratique a disparu d'elle-même quand même. Alors on peut espérer qu'un certain nombre de ces conduites totalement inutiles, voire délétères, finiront aussi par disparaître d'elles-mêmes. Mais d'autant mieux qu'on enfoncera plus le point là-dessus. Merci en tout cas à Thomas et à Adeline d'être venus nous parler du travail des internistes. J'espère qu'un jour on aura le travail des généralistes dans cette salle.
Oui, c'est voilà.
Et comme ça, la série sera contente et satisfaite. Merci beaucoup.